l'innovation.
De l'innovation.
L'écosystème innovant.
Social innovation.
On a beaucoup d'innovation.
L'innovation. L'innovation radicale.
Pépite, c'est le podcast du MTI qui vous parle innovation et technologie d'aujourd'hui.
Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode de Pépite, le podcast du MTI. Nous aborderons aujourd'hui le thème de la pensée complexe et citoyenneté dans un contexte de crise sanitaire mondiale, le Covid-19. Je suis Félix et je suis accompagné par Gaïa.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de recevoir Oussama Bouis, fervent défenseur de la pensée complexe d'Edgar Morin, dans laquelle il puise ses inspirations philosophiques pour répondre aux problématiques sociétales, économiques et politiques. Jeune chercheur en théorie d'organisation et leadership à l'Université Paris-Dauphine, il est également consultant en stratégie au sein du cabinet Hector Advisory. Soucieux de partager ses réflexions et d'engager le dialogue avec le plus grand nombre, il s'essaye à la chronique à travers le média The Conversation. Participe en 2018 à la conférence annuelle TEDx Université Paris-Dauphine et prépare la publication de son premier ouvrage prévu en 2021. Bonjour Oussama, comment vas-tu ?
Bonjour Félix, bonjour Gaïa, je vais très bien et vous ?
Ça va, merci beaucoup de prendre du temps avec nous. Et avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton affiliation à la pensée complexe d'Edgar Morin et aussi nous expliquer un petit peu ce que c'est que tout ça ?
Alors la pensée complexe d'Edgar Morin, c'est d'abord une méthode. C'est une méthode qui vise à répondre à une question principale, comment connaître ? Comment connaître ce qui se présente à nous, comment connaître toute chose dans la vie de manière rigoureuse, rationnelle. Et pour répondre à cette question, Edgar Morin a entrepris un vaste travail d'études et d'analyse de la manière dont la science s'est proposée de connaître le monde physique, le monde social, le monde biologique. Il y a constaté un certain nombre de failles, un certain nombre de limites, notamment une forte tendance à la simplification, ce qui l'a amené à considérer, avec d'autres auteurs, d'autres penseurs, d'autres philosophes, qu'il nous fallait complexifier davantage notre travail scientifique, qu'il fallait faire entrer la complexité dans les sciences, et ainsi il a proposé, dans un ouvrage qui s'appelle « La méthode », et l'ouvrage porte bien son nom, une méthode pour complexifier la pensée, à la fois la pensée scientifique, mais de manière plus globale, toute forme de pensée.
Du coup, revenons un peu au thème qui nous réunit aujourd'hui. Cela va faire un an que le monde subit une crise sanitaire mondiale. En France, c'est le premier couvre-feu depuis la Seconde Guerre mondiale. Les milieux de la culture et de la restauration subissent cette crise de plein fouet. Les manifestations sociales sont de plus en plus violentes, les GAFA font de plus en plus de bénéfices, et le débat écologique et social se cristallise. Quelle analyse est-ce que tu portes face à ce constat ?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, la notion de crise a ceci de commun avec la notion de complexité. Toutes ces deux notions procèdent, en tout cas résultent, d'un aveu d'impuissance cognitive. C'est-à-dire, soudainement, on se rend compte qu'on a du mal à comprendre ce qui se passe, donc on dit c'est complexe, ou alors c'est la crise, pour un peu cacher cet aveu de faiblesse et cette difficulté à envisager et penser ce qui arrive. Donc ensuite, le deuxième élément, c'est qu'en effet, on a qualifié les événements qui sont arrivés en France depuis le mois de mars de crise, car cela a remis en cause, et ça c'est une chose que j'ai eu l'occasion de développer dans un article dans The Conversation qui s'appelle « Qu'est-ce qu'une crise ?» en reprenant la théorie d'Edgar Morin sur la crise, savoir qu'une crise est un moment où les normes de stabilité, les règles, nos habitudes qui nous permettaient de vivre quotidiennement sans y penser, bien soudainement elles sont remises en cause et nous devons changer quelque chose dans nos façons de vivre. Et les normes elles-mêmes qui réglaient nos vies à la fois individuelles et collectives sont remises en cause. Donc ça c'est un peu la définition générale, le cadre général de ce qu'est une crise. Ensuite, quand il s'agit de l'analyser, là nous sommes à plusieurs mois de cette crise, qui globalement chez nous en France a plutôt commencé en mars, bon, il est assez difficile de faire le bilan. Et c'est bien là que la pensée complexe est particulièrement précieuse, car elle vise précisément à nous fournir une méthode pour penser ce genre d'événement qu'est la crise, et penser dans toute sa complexité. La première chose, vous m'avez posé une question en employant beaucoup de mots. Violence, les GAFA, la question des libertés, il y a eu tout un tas de choses, beaucoup de mots qui ont circulé dans la presse, les médias, à travers les discours officiels des dirigeants de notre pays. Et tout un chacun, dans ses discussions régulières, a également mobilisé tout un tas de vocabulaire pour parler un peu des événements que nous vivons. Bien ça, c'est la première chose dont il faut se méfier. C'est le langage, c'est les mots que nous employons. Il faut veiller à ne pas se faire piéger par les mots. les aligne, et c'est parce que Paul Valéry disait, c'est parce que nous parlons vite, parce que nous allons vite sur le langage que nous nous comprenons. Mais à vrai dire, ces mots ont une importance dans nos réalités, dans nos vies quotidiennes. Le mot a ce que l'on appelle un effet performatif. Il participe à produire aussi des réalités. Certes, il nous sert à désigner, mais parfois aussi, il permet de produire ces mêmes réalités. Et donc, il faut être très vigilant et vraiment prendre le temps de bien poser le problème et de savoir comment connaître, comment comprendre ce qui s'est passé, à partir de quoi. Et ensuite, si l'on veut juger, si l'on veut porter un jugement sur ce qui s'est passé, est-ce que c'est bien, mal, ce genre de jugement moraux, alors il nous faudra une référence à laquelle se rattacher, qui constituera un peu l'autorité morale, à partir de laquelle nous dirons, bon ben c'est plutôt bien, c'est plutôt mal. Donc déjà, ce sont les premiers éléments, je sais que ce sont des éléments introductifs, je crois, nécessaires pour un peu cadrer la réflexion, la discussion. Une fois que ceci est dit, on peut ensuite reprendre le cours des événements depuis mars et s'efforcer d'être le plus factuel possible, c'est-à-dire ne pas céder immédiatement à la qualification conceptuelle en disant « bon, bah, c'est ceci, c'est cela », mais d'abord essayer de voir un peu ce qui s'est passé. Bon, globalement, nous avons eu un moment un peu fort depuis cette année, nous avons eu un grand moment assez fort qui a été celui du confinement. Soudainement, alors que nous étions habitués à pouvoir sortir librement et faire à peu près ce que nous voulions, nous étions libres de circuler, soudainement, une partie de la population, et pas toute la population, et ça c'est aussi quelque chose de très important, s'est retrouvée à devoir rester chez elle, et donc privée, en quelque sorte, de liberté. Et cette privation de liberté, elle a révélé tout un tas de choses. Et à vrai dire, une des choses que je crois particulièrement intéressante, c'est qu'elle a révélé le poids assez essentiel que joue le travail, les activités économiques marchandes dans notre vie collective et même, je dirais, dans notre survie. Ce qui est inquiétant après tous ces mois passés, c'est de se rendre compte à quel point la vie économique marchande, le fait de travailler, le fait de vendre et acheter, de produire et consommer, est absolument essentiel si nous voulons tout simplement survivre. Et on le voit bien avec les inquiétudes autour du chômage, des fermetures d'entreprises. On voit bien qu'il y a une vraie inquiétude, car chacun se sait non pas menacé économiquement, mais se sait menacé personnellement, se sait menacé dans sa possibilité même de vivre et de bien vivre, s'il venait à perdre un emploi, ou si son entreprise venait à fermer. Et donc ça, c'est une inquiétude qui est forte et qu'on peut comprendre. Cependant, si l'on cherche à juger de cette inquiétude, est-ce une bonne inquiétude ou pas, il nous faut, je le disais, un référent moral. Et je crois qu'en France, malgré tout ce que l'on peut dire, que nous serions divisés, que nous sommes d'accord sur rien, etc., bon, ça, ce sont pareils, ce sont des discours, c'est faux. Les faits est que nous avons des textes, nous avons des références morales communes. Nous sommes d'accord sur certaines choses, nous tous, plus 60 millions de Français, nous avons ces références, et en l'occurrence, une référence principale majeure qui est la norme des normes, la reine des règles et des lois, qui est la Constitution. Nous avons une Constitution qui est un texte audacieux, qui est un très beau texte, qui est un texte riche d'une histoire très longue, qui commence en 1789, se poursuit ensuite au fur et à mesure de l'histoire jusqu'à la constitution de la Ve République de 1958. Cette constitution, elle défend une vision très claire de l'idée que l'on se fait de la France, de l'idée que l'on se fait de notre vie collective, en définissant notamment la France comme une république sociale, une république une indivisible, sociale, démocratique, laïque, en reconnaissant la lutte contre les inégalités comme étant une chose primaire, en intégrant la Déclaration des droits de l'homme, elle intègre l'idée de liberté comme la possibilité pour chacun de faire tout ce qu'il souhaite dès lors qu'il ne nuit pas aux autres, en intégrant également l'égalité comme valeur centrale, la solidarité à travers la notion de fraternité. Nous avons toutes ces valeurs qui nous sont communes. Et notre République, c'est ça, et la République française, ce sont ces valeurs-là, et celui qui par contre viendrait à être en désaccord avec ces valeurs qui pour nous sont les valeurs maîtresses, eh bien alors là en effet il discuterait la République, il discuterait le consensus commun, il discuterait un contrat social qui pour nous est fondamental et est même au fondement de la possibilité pour nous de vivre ensemble et de vivre de manière collective et ainsi aussi d'organiser cette vie collective. Et quand on en vient à cette Constitution, il n'y est pas inscrit que nos vies devraient dépendre de nos activités marchandes ou que nos vies devraient dépendre du fait d'avoir ou non un travail. Nos vies devraient dépendre de notre capacité collective à nous organiser, pour permettre à chacun d'être libre, d'avoir des droits égaux et la possibilité, des possibilités égales dans sa vie individuelle, mais également dans la vie collective. Et force est de reconnaître qu'aujourd'hui, si en théorie la Constitution n'énonce pas le fait que le travail devrait occuper une place centrale dans nos vies, au point qu'il faille le défendre de toutes nos forces dès lors que le monde économique marchand tremble un peu ou est fragilisé, alors il faut s'interroger sur ce que l'on fait de cette Constitution et sur notre véritable souci de continuer à être et à vivre dans une République forte, avec des valeurs communes, avec un contrat commun, certes ambitieux, idéaliste, mais c'est comme ça que s'est construit la République. Alors il faut poursuivre cet effort-là.
Du coup, toi, dans ton analyse, les normes sont ancrées au sein de notre culture. Pourtant, on voit une certaine évolution. Est-ce que, selon toi, notre société, elle tendrait vers un modèle de type Weberien, avec sa théorie de la bureaucratie, un ordre rationnel légal? Peut du coup se rapprocher du système marchand et donc qui impose l'impersonnalité des fonctions, des règles et des procédures, la spécialisation des agents, l'existence d'un système hiérarchique fort.
Oui, je pense qu'en effet, la lecture weberienne est intéressante, mais c'est déjà un vieux monde. Nous le connaissons, ce monde, depuis bien longtemps. Cette façon de fonctionner très bureaucratisée, c'est quelque chose que nous connaissons nous-mêmes depuis nos parents. Nous savions qu'ils vivaient dans de grandes entreprises, qu'ils y travaillaient plutôt dans de grandes entreprises très bureaucratiques. Donc ce n'est pas quelque chose que nous avons découvert. Nous, au contraire, plus jeunes, avons cherché à produire, ou en tout cas, nous sommes plus intéressés par des modèles alternatifs ou ce genre de choses-là. Nous, on parle de la start-up, on ne parle plus du monde bureaucratique, et c'est un peu ce qu'on y oppose. Donc oui, il y a des normes, mais il y a des normes multiples. Le monde économique fonctionne, qu'il soit marchand ou non marchand, fonctionne avec tout un tas de normes, de règles qui évoluent. Ce qui est problématique, c'est quand ce monde-là et ces normes à ce monde marchand occupent une place qui devient centrale dans nos vies. Quand il faut être productif à la fois au travail et en dehors du travail, quand notre vie citoyenne se réduit à un vote tous les 5 ans et que notre vie économique est une activité quotidienne et est une affaire quotidienne, il faut s'interroger sur notre statut de citoyen. Est-ce que, comme le garantit notre Constitution, notre vie collective et notre vie individuelle, notre dignité dépend de notre qualité de citoyen, ou est-ce qu'elle dépend de notre qualité d'actif ou de chômeur? Il faut se poser cette question un peu sérieusement. Si on considère qu'elle doit dépendre de notre seule citoyenneté ou du seul fait d'être humain, que notre dignité ne dépend que de cela, alors nous devons fournir un effort collectif pour réfléchir à la manière dont il faut réorganiser nos vies pour que lorsqu'arrive une crise économique ou que le monde économique, le système économique marchand est en crise, que nos vies n'en soient pas pour autant à chaque fois affaiblies, qu'on ne se retrouve pas avec une explosion de la misère sociale. Ce sont des questions tout à fait sérieuses, très sérieuses, essentielles, auxquelles nous ne réfléchissons que très peu. Car nous continuons à nous intéresser à avoir les yeux rivés vers le monde marchand en nous disant comment le sauver. Non, je crois qu'il faut plutôt avoir les yeux rivés sur nous-mêmes et comment nous sauver, nous, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que ça fonctionne comme ça. On les connaît, les faiblesses du monde marchand, on les connaît. Des cycles de crise, on en a eu d'autres. C'est déjà arrivé, ça arrivera de nouveau. Que le monde marchand soit un monde fragile n'est pas une chose nouvelle. Il faut être fou pour ne pas le voir.
Du coup, selon toi, c'est un peu symptomatique d'une certaine faillite sociale, ce qu'on vit aujourd'hui.
Ouais, faillite sociale, faillite politique, sans doute, je dirais pas faillite spirituelle, car on penserait que je parle de religion. Mais vous avez eu beaucoup de penseurs rationalistes français qui parlaient de l'esprit, de la vie de l'esprit, pour un peu essayer de désigner ce que nous avons un peu en tête, la manière dont nous construisons notre rapport au monde. Je crois qu'il y a une faillite dans la manière dont nous construisons notre rapport au monde. Ou en tout cas, nous ne parvenons pas individuellement à intégrer le genre de tournure d'esprit qu'exige une démocratie. Nous n'y parvenons que très difficilement, et on le voit dans les débats qui ont eu lieu depuis le mois de mars, et la manière dont ont été gérées les affaires publiques. Enfin, la manière dont ont été gérées les affaires publiques et dont nous avons pu discuter, que ce soit à travers les médias ou pas, de tout un tas de sujets, témoigne du faible intérêt que nous avons pour ce que l'on appelle le régime de la discussion et de la recherche, ce qu'on appelle une démocratie. Bertrand Russell, philosophe anglo-saxon, nous dit que depuis la Grèce ancienne, il y a eu deux grands modes de production de croyances, la manière de produire des croyances que je crois vraies. Il dit le premier mode est celui de l'autorité. Dieu a dit, ou un tel a dit, et cette autorité peut être très diverse, hein, ce n'est pas forcément que la religion, ça peut être le parti, ça peut être l'autorité d'un homme, d'une personne, tel philosophe, tel scientifique, etc. Donc une autorité personnifiée et qui imposerait, qui définirait ce qui est vrai et faux. Et il dit le deuxième mode de production de croyances vraies est la discussion et la recherche. On discute, on recherche ensemble la vérité, on en discute. Et donc ça, c'est un autre régime. Et il dit, chacun de ces modes de production de croyances correspond à un mode de gouvernement des affaires publiques. Il dit, lorsque le mode de l'autorité, quelqu'un qui vient vous définir ce qu'il faut faire, prédomine, alors généralement le mode de production de croyances est celui de l'autorité. Il dit, lorsque le mode de discussion et de recherche, donc le mode démocratique, prédomine, alors généralement le régime en place est un régime plutôt démocratique. Et en l'occurrence, on voit bien que depuis le mois de mars, ce n'est pas nécessairement le régime de la discussion et de la recherche qui a animé à la fois les modalités de gestion de crise, où on a beaucoup reçu d'ordres, on a très peu échangé et discuté sur tout un tas de sujets, et où globalement l'autorité s'est également imposée nous-mêmes dans la manière dont nous envisageons les problèmes relatifs à cette crise, dont nous les pensons et les discussions que nous voulons avoir. Je pense que collectivement, nous voulons avoir des discussions. Il y en a eu beaucoup depuis le mois de mars qui n'ont pas grand intérêt au regard des problèmes réels auxquels nous faisons face. Et je pense par exemple à la loi sur la sécurité globale ou sur le séparatisme. On m'explique très bien quel est le rapport entre ça et les problèmes auxquels nous faisons face. Si nous avons besoin de ce genre de débat au moment où nous faisons face à une crise qui nous fragilise tous collectivement, moi je me pose de sérieuses questions sur l'intérêt de ce débat et la place qu'il a pris dans les discussions au sein des médias. On a interrogé la loi de 1905, on l'a remise en cause, pour pouvoir contrôler davantage les cultes, les religions. Donc à chaque fois que l'on fait face à un défi, on modifie une loi de manière assez unilatérale, sans consulter les citoyens. La voie référendaire n'a pas été utilisée une seule fois. Moi, je suis assez choqué par les grandes décisions qui ont été prises et qui n'ont jamais sollicité. Moi, en tant que citoyen, je ne me suis jamais senti sollicité. Senti attaqué parfois par moment, notamment au moment de la loi sur le séparatisme, où ça a été une folie, une sorte de folie collective incompréhensible, où on s'est mis à faire tout et n'importe quoi, alors qu'il y a un danger réel, et qu'il faut reconnaître, en effet, la question du terrorisme est une question tout à fait sérieuse. La question de préserver et d'assurer la sécurité de notre territoire est tout à fait essentielle. Personne ne viendrait le nier. Cela dit, on est en 2020, les méthodes de guerre ont quand même beaucoup évolué. On ne tire plus à boulets de canon, on a des tireurs d'élite qui sont capables d'un tir précis, ciblé. On ne tire pas à boulets de canon sur tous les musulmans en se disant « on va finir par en toucher un ». Enfin, ça ne marche plus comme ça. On a appris à tirer de manière très précise. À un moment, il faut... La science également a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, sur la question du terrorisme, de la radicalisation. Des rapports ont été remis au ministère de la Justice qui identifiaient les questions économiques, sociales, relatives. À cette question-là relative au fait qu'en effet certaines personnes à un moment se détournent des valeurs communes dont nous parlions précédemment, ces valeurs républicaines communes, à un moment ils s'en détournent parce que la liberté ils n'y croient plus ou l'égalité ils n'y croient plus ou ils s'en détournent totalement et développent en effet toutes sortes de comportements qui collectivement nous nuisent et en effet qu'il faut arrêter. Mais ce sont des choses qui sont documentées, la science fait du travail là-dessus, les sciences sociales font un boulot énorme.
Justement, là-dessus, c'est intéressant parce que c'est Victor Hugo qui disait que la dictature ouvre un droit à l'insurrection quand la démocratie la referme. Qu'est-ce que t'en penses ?
Ce qui est dramatique dans une démocratie, c'est précisément les mouvements d'insurrection. C'est-à-dire que le drame dans une démocratie serait qu'une personne fasse usage d'une forme quelconque de violence parce qu'elle estime ne pas être entendue. C'est qu'à un moment, nous ne sommes pas parvenus à véritablement réaliser notre idéal démocratique. Alors évidemment, ça n'a pas de lien avec ce que je disais précédemment sur le terrorisme. Je ne dis pas que ceux qui sont terroristes ont un problème, ne se sentent pas entendus ou pas, ce serait complètement faux. Je ne pense pas que ce soit le sujet. Mais en l'occurrence, là-dessus, moi je pense que la force de la démocratie seulement, c'est de permettre d'anticiper ces formes. Enfin, ça ne plaît à personne d'aller manifester, de s'insurger. Moi, je n'ai aucun plaisir, je ne trouve aucune esthétique à l'esthétique, au fait de se révolter, de devoir se battre. Il n'y a pas d'idéal, le droit de manifester, le droit de grève, bon, c'est certains droits, mais dont idéalement on aimerait se passer. On aimerait pouvoir dialoguer de manière sereine. On aimerait pouvoir dialoguer en étant entendu, en discutant d'égal à égal, de manière libre, sans contrainte, sans devoir subir soit un jugement individuel ou collectif, ou des tribunaux médiatiques qui se déchaînent. On aimerait pouvoir discuter tout à fait sereinement, comme des êtres humains sont capables de le faire. Et c'est de cela dont on a besoin, et c'est ainsi que l'on veut vivre, et c'est aussi notre idéal collectif. En France, notre idéal, l'idée de la République, c'est l'idée qu'on peut. On peut réussir tous ensemble à discuter, à rechercher ensemble des solutions, et à s'organiser ainsi librement et de manière égale et solidaire. Donc à un moment, ce dont on a besoin, c'est de continuer à renouveler, à redonner de la force à cet idéal-là, qui est dans nos textes. Nous ne sommes pas des militants. Quand je dis ça, je ne suis pas un militant, je n'ai aucun courage. Je ne suis pas un activiste. L'activiste, le militant, c'est celui qui est dans un pays qui, par exemple, a refusé de signer la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 parce qu'il ne se reconnaît pas dans ses valeurs de liberté, d'égalité. Lui, c'est un militant s'il dit ça dans son pays. Moi qui dis ça en France, je ne milite absolument pas. Je ne suis pas dans une offensive, je ne suis pas en lutte. Ceux qui sont en lutte, ce sont ceux qui, au contraire, remettent en cause ces principes-là ou considèrent que finalement... c'est la théorie, ou c'est abstrait, ou c'est du vent, ou après tout, bah, il faut bien travailler, et qui vous répète, bah, il faut bien travailler 40 fois pour vous dire qu'on n'a pas le choix, et naturalise, rendre naturel quelque chose qui est une construction sociale, pas du tout ancienne, assez récente, plutôt 19e siècle, fin du 19e siècle, donc bon, et veulent naturaliser quelque chose d'aussi récent, comme si c'était une fatalité, et qu'on n'avait pas d'autre façon de faire, et qu'on ne pouvait pas faire autrement, que nous serions de manière pas suffisamment intelligents collectivement pour trouver d'autres manières de nous organiser. Bon, ben moi ça je n'y crois pas, moi, je crois que nous sommes tout à fait brillants collectivement, et nous sommes encore plus intelligents collectivement, et qu'aujourd'hui, oui, on n'a pas besoin d'insurrection, ce qu'on a besoin c'est de discuter, et de rechercher ensemble des solutions. On a besoin de retrouver ce sens de cette solidarité collective, qui nous permet derrière de garantir nos libertés et cette égalité à laquelle nous tenons.
C'est intéressant parce que ça rejoint aussi une des thématiques de notre master, c'est-à-dire l'innovation sous la contrainte. Et c'est finalement sous contrainte que l'esprit humain peut être le plus créatif et peut trouver des idées innovantes. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette idée ?
Oui, je crois que c'est... le fait de on ne peut pas penser en absolu. Nous sommes des êtres relatifs. Nous sommes constamment sous la contrainte, on ne peut pas se séparer ni de notre matérialité physique, ni de notre dépendance à la fois aux autres, mais également à notre environnement, à l'air, à l'eau, à tout un tas de ressources. Nous sommes des êtres relatifs constamment placés sous contrainte. Constamment, nous autres humains ne savons vivre que sous contrainte et notre intelligence, notre raison est là pour nous aider à trouver des voies, à faire œuvre de stratégie, d'intelligence, trouver des voies pour s'organiser et vivre. Notre grand enjeu, nous, c'est de vivre. Si l'affaire était simple, s'il n'y avait rien pour venir nous contre, si nous étions seuls, entre nous, sans intention, si nous étions des êtres mécaniques, nous n'aurions pas de problème. Sauf que nous sommes des êtres humains, nous avons des intentions, nous avons la raison, nous avons plein de ressources à notre disposition. Et donc, il nous faut bien réfléchir ensemble à comment nous usons de ces ressources. Sachant qu'en effet, il y a toujours, constamment des contraintes. Mais l'enjeu, c'est d'abord de les comprendre, d'identifier quelles sont ces contraintes, et ensuite d'être capable, derrière, d'imaginer des voies, de faire preuve de créativité, ou même d'intelligence, tout simplement. Et ce, à la fois en se tournant vers le passé, car d'autres ont trouvé des solutions à des problèmes parfois similaires. Ce dont nous parlons aujourd'hui sur la crise, la question de la République, de la démocratie, est une question des questions qui étaient déjà soulevées à la fin de la République romaine. Vers la fin de la République romaine, on avait déjà un certain nombre de débats, de discussions qui portaient sur le fait que la République avait perdu le fond de ses valeurs. On critiquait l'individualisme croissant des citoyens. On disait maintenant ils ne veulent plus que du pain et des jeux. On pourrait dire qu'aujourd'hui ils ne veulent plus que du travail et des écrans. En croire le fait qu'avec un écran à domicile, finalement, on peut continuer aussi à travailler. Donc, ce sont des choses, quand on regarde le passé, qu'on a déjà trouvé, qu'on a déjà vécu. Et l'enjeu, moi, je crois que l'enjeu, notamment quand on parle d'innover, de trouver de nouvelles choses, c'est de veiller à ce que les choses nouvelles auxquelles on s'intéresse sont vraiment nouvelles, quoi. Enfin, les humains, enfin, nous autres humains, quand même, il y a beaucoup de choses qu'on fait, qu'on reproduit dans le temps, qu'on retrouve... Voilà, il y a une crise, alors on trouve un bouc émissaire pour liquider le mal. C'est une chose récurrente, régulière, on fait toujours pareil, on recommence, on recommence. Et nous, on est dedans, donc on le voit se faire. Puis parfois, on y participe inconsciemment, soit par en se taisant, soit en ne disant rien. soit parfois en disant des choses qui peuvent aller dans ce sens-là et participer à reproduire des choses qui nous nuisent collectivement, terriblement. Donc ce qu'il faut d'abord, c'est se méfier du langage, comme on le disait, et vraiment s'assurer que les problèmes que nous avons sont de vrais problèmes, prendre le temps de consulter l'histoire. Nous sommes, nous autres humains, une grande famille, une grande espèce qui a une longue histoire, qui a fait énormément de choses, qui notamment a un grand intérêt pour la technique. Nous sommes dotés de plein de techniques, nous ne sommes pas contentés de nos corps, nous avons cherché à développer tout un tas de choses pour à la fois suppléer certaines actions et nous remplacer dans certaines actions que nous réalisions, nous faciliter le travail. Voilà, nous sommes des êtres techniques qui imaginons, qui travaillons certes à cela, à développer de nouvelles techniques. Donc il faut prendre le temps un peu de se tourner vers le passé, renouer avec ce sens de l'histoire qui est très très important, surtout lorsqu'on travaille sur des sujets comme l'innovation, la créativité, pour ne pas se faire d'illusions et voir en effet ce qui a déjà été fait, les enjeux similaires qui ont déjà pu être rencontrés et les nouvelles choses qu'on a pu créer pour cela. Et entre l'invention de l'écriture il y a 3-4 000 ans avant Jésus-Christ, il y a 3-4 000 ans, pardon, et nos téléphones, bon, il y a quand même du temps qui est passé. Et pourtant, le rôle à chaque fois est le même, c'est d'interagir, de pouvoir échanger facilement, rapidement, sans forcément ou nécessairement l'usage de l'oral. On a mis du temps avant d'arriver à ce genre de choses-là, qui nous facilitent la vie, qui nous permettent d'échanger. Nous permettent d'abord d'échanger, avant de vendre et de créer du chiffre d'affaires à qui que ce soit. Nous, le plaisir dont nous tirons de nos téléphones, c'est de pouvoir échanger, interagir. Donc il nous faut réfléchir à ça, comment on veut interagir, librement, de manière égale. Ce sont des questions qui nous préoccupent depuis bien longtemps et qui continueront à nous préoccuper. Lorsqu'on ne les affronte pas, lorsqu'on n'y réfléchit pas, bien sûr, ce sont des questions qui peuvent nous échapper et on peut perdre en liberté, perdre en égalité, parce qu'on n'a pas pris le temps de s'interroger concrètement sur les vrais enjeux de ce que nous inventons.
Ouais, finalement, c'est un peu un retour à cette question. Est-ce que la tech est une finalité ou est-ce que c'est un moyen ?
Mais ça n'est qu'un moyen. J'espère bien que c'est comme l'argent. Mais nous, les humains, on a un grand souci. C'est que plus nous accumulons d'une technique, plus nous accumulons d'un moyen, plus nous finissons par le prendre pour une fin. Il en va de même pour l'argent. À force de l'accumuler, certains ont fini par penser que l'argent avait une valeur absolue. Et c'est une norme qui s'impose de plus en plus. On y croit nous-mêmes, on a grandi dedans, on a baigné dedans, ne sachant pas ce qu'était l'argent. On a cru que c'était une chose tout à fait naturelle, avec laquelle tous les humains ont vécu et toutes les sociétés humaines ont vécu. Alors que pas du tout, ce sont des inventions. On invente des techniques pour échanger, pour réaliser des transactions. L'argent a un caractère émancipateur, permet de pouvoir mener une activité, s'y concentrer et pouvoir ensuite aller s'acheter sur le marché ce dont on a besoin pour vivre, sans devoir soi-même le produire, ce qui est plutôt une chose intéressante, cette forme de division sociale du travail, intermédiée par l'argent qui permet de lier des producteurs et des consommateurs. Bon, c'est une chose tout à fait plaisante, dès lors qu'elle ne prend pas toute la place. Donc ça, c'est la même chose pour l'argent, la même chose pour l'écrit. Le fait d'écrire des livres ou d'écrire des articles pour un scientifique n'est pas une fin. Aujourd'hui, on évalue les scientifiques, notamment dans le monde anglo-saxon, sur leur production d'articles. Bon, un article, c'est une technique, c'est un moyen de communiquer, de partager des recherches. Le faire à l'oral, le faire à l'écrit, évidemment, ce n'est pas la même chose. Les enjeux ne sont pas les mêmes, mais la finalité est la même. C'est d'interagir, de communiquer, d'échanger. Et la technologie, quelles que soient les techniques qu'on invente, en fait, l'écriture, ça fait partie des technologies, de ces techniques qu'on a inventées. L'écrit, un papier, un article scientifique, c'est une technique d'interaction. Tous ces moyens que nous utilisons, nous les avons conçus nous-mêmes à notre service et pour principalement interagir. Donc oui, c'est un moyen. Accumuler des téléphones ne sert à rien si vous n'avez personne au bout. Vous pouvez l'acheter, le téléphone, mais s'il n'y a personne, si vous êtes sur Facebook, mais vous n'avez pas d'amis, vous n'allez pas y rester longtemps sur Facebook. Vous allez LinkedIn, tout ce que l'on a inventé de réseaux sociaux ou même de téléphone tout court. Le téléphone comble un sentiment de solitude et en même temps nous replie sur nous, certes, mais il nous permet d'interagir aussi. On ne peut pas s'en passer de cette interaction. Donc ouais, ce sont des outils. Par contre, il faut comprendre à quoi ils nous servent et s'interroger sérieusement sur est-ce qu'on les emploie bien ou pas. Est-ce que trop employer son téléphone ne crée pas un certain type d'interaction et favoriserait pas un certain type d'interaction très virtuelle par rapport à un autre ? Bon, ben, ce sont des questions qu'il faut se poser et réfléchir à la manière dont chacun a envie d'interagir avec les autres et décider de cela.
J'ai une question un petit peu plus littéraire. J'avais vu que Edgar Morin, il était très intéressé par la poésie et que ça l'inspirait beaucoup. et qu'il séparait le monde en deux catégories. Il y avait le prosaïque, donc c'était tout ce qui nous embête et ce qu'on est contraint de faire, et le monde poétique. Est-ce que tu partages cet avis? Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, la distinction, elle est assez intéressante. Reconnaître qu'il y a dans la vie des choses tout à fait prosaïques, qu'il faut se coltiner, qu'il faut faire l'effort. Il y a un effort, en effet, qui est nécessaire pour pouvoir vivre ensemble. Il y a tout un tas d'efforts à faire, à fournir. C'est évident. C'est évident. Nous ne pouvons pas faire que des choses plaisantes. Il y a des choses routinières qu'il nous faut faire. Nous avons besoin de stabilité. Donc, nous créons et développons un certain nombre de routines. C'est ce qu'il met sous la notion de prose, le caractère prosaïque de la vie. Et ce qu'il dit aussi, Edgar Morin, c'est qu'il faut plutôt développer la poésie et enrichir le caractère plus poétique de la vie, avec l'amour, l'art, la sagesse. Tout ça participe à donner à la vie d'autres couleurs. Ce qui est intéressant dans sa comparaison entre prose et poésie, c'est que finalement, ce qui exige le plus de travail, le plus d'effort, en tout cas de manière très, très rudimentaire, hein, ce n'est pas forcément vrai pour ceux qui rédigent de la prose, mais en tout cas, le travail poétique, la poésie nécessite beaucoup plus d'effort, beaucoup plus de travail et de maîtrise que la prose. Il y a quelque chose dans la prose comme ça, un peu d'inconscient, ou entre guillemets, pas de naturel, mais quelque chose un peu de facile. La prose, nous parlons en prose. C'est notre mode d'interaction privilégié, c'est le mode d'interaction le plus évident. Alors que la poésie, parler en vers, ce n'est pas une affaire simple. Ça nécessite du boulot, ça nécessite de la maîtrise. C'est un point qui avait été bien abordé par Jacques Bouvresse dans un livre qu'il faisait sur Paul Valéry. Paul Valéry qui parlait du travail poétique et qui définissait le travail poétique comme un exercice sportif qui nécessite en effet un vrai travail des mots, déjà pour ne pas se faire piéger par le langage, et qui nécessite derrière de dompter ce qu'il appelait l'animal langage. C'est une expression de Paul Valéry, cet animal langage. Et la poésie fait ce travail-là et crée des univers. Musil disait, les seuls autorisés à pouvoir dire des bêtises, ce sont les poètes, car ils subliment tout. Ils subliment tout ce qu'ils disent. Bon, c'est un véritable boulot. Et donc, la prose, certes, suppose un peu d'ennui, sans doute, et parfois de difficulté et de douleur, mais la poésie aussi. Car elle suppose du travail. Et il faut sans doute quelque chose, un travail un peu prosaïque pour pouvoir créer de la poésie. Un effort assez long, assez pénible, pas immédiatement plaisant, mais qui, avec l'effort, peut faire germer, en effet, de beaux vers de poésie et faire rimer, comme ça, les jours, les uns après les autres. Mais c'est du travail. C'est un exercice sportif.
Pour clôturer cette discussion, de manière optimiste et concrète, est-ce que tu aurais des recommandations pour nos auditeurs afin de passer du concept à la concrétisation des actes citoyens?
Bien, tout d'abord, je pense que alors, ce ne sont pas des conseils, au sens où il n'y a pas les respecter ou ne pas les respecter. Je n'assure rien du résultat. Donc voilà, je ne m'engage pas sur le résultat de ceux qui suivront ces idées-là. Ce sont plutôt des idées. Moi, je crois que la première chose, c'est qu'il faut valoriser et retrouver le goût de la connaissance. De la connaissance non instrumentale, de la connaissance entre guillemets qui n'a pas d'utilité pratique, qu'on ne peut pas manipuler, de la connaissance contemplative qui permet d'abord de comprendre. Retrouver le goût de la compréhension, retrouver le goût de la vérité entendue comme correspondance entre ce qui est dit et ce qui est réellement, et retrouver ce goût-là, je pense, est quelque chose d'essentiel, comprendre. Et d'abord, subordonner, comme le dit Jacques Bouvresse, le désir de juger au besoin de comprendre. Ce besoin-là de comprendre et ce goût de la connaissance, Bertrand Russell disait que cet amour de la connaissance, chez les scientifiques par exemple, il prenait le cas des scientifiques, disait Bertrand Russell qu'il vient de l'amour de la vie. Il dit c'est parce qu'ils aiment la vie qu'ils aiment la connaissance sur la vie. Donc je crois qu'il faut retrouver ce goût-là, être capable un peu de s'émerveiller, de voir ce qu'il y a de grand, de mystérieux, et aussi d'être capable, par voie de conséquence, de reconnaître ses propres fragilités. Et seule la connaissance, je crois, descriptive, la connaissance théorique que mènent les scientifiques de manière très dynamique peut nous permettre cela. L'histoire vous éclaire sur le fabuleux destin et la fabuleuse aventure de l'humanité qui est à la fois faite du meilleur et de choses absolument impressionnantes et magnifiques comme du pire. Les humains, nous autres humains, sommes capables de choses fabuleuses, d'inventer des techniques absolument génial, de prolonger notre durée d'existence sur Terre, c'est dire à quel point nous aimons la vie, nous voulons la prolonger, certains rêveraient d'éternité, Nous sommes capables de choses absolument, vraiment très très belles. Nous sommes capables de nous réconcilier après avoir été en conflit très très longuement. Nous sommes battus pour des morceaux de terre et nous continuons encore aujourd'hui à nous battre pour des morceaux de terre comme s'ils nous appartenaient. Alors que nous sommes arrivés là, tout était déjà là pour nous, nous avons occupé le terrain, alors qu'à aucun moment il nous a été donné de titre de propriété. Mais nous nous battons, alors nous discutons, et puis ces dernières années, il faut reconnaître que nous vivons des années particulièrement au regard de l'histoire longue. Des années plutôt pacifiques où nous sommes parvenus à échanger, parfois à discuter sur des sujets, des conflits. Nous avons un peu stabilisé les relations internationales, nous avons redonné de l'autonomie à des citoyens, à des peuples, notre constitution elle-même, en reprenant les termes de la constitution de 1946, énonce le fait qu'une des volontés de nous autres citoyens et de nous autres dans notre République est de permettre à chaque peuple d'accéder à son autonomie. Donc nous avons, comme ça, réalisé des choses très très belles et en même temps des choses terribles. Des guerres, nous avons tué, nous continuons à tuer. Nous avons isolé des humains en considérant les marginalisants, en considérant qu'ils valent moins que d'autres. Nous continuons à aller en mépriser d'autres. Et puis là, nous sommes avec une crise où on risque encore de commettre des erreurs que nous avons déjà réalisées par le passé. Donc il nous faut comprendre ces choses-là et je crois qu'il faut retrouver le goût de la connaissance, le goût de la vérité. Rentrer dans des choses difficiles, ça c'est très concret, il faut entrer dans des choses difficiles, il faut cesser de se mépriser, de s'auto-mépriser en se disant c'est trop compliqué pour moi, si c'est compliqué c'est qu'il faut encore travailler. On n'abandonne pas parce que c'est compliqué, à un moment vivre c'est lutter, c'est se battre, c'est fournir un effort, ce n'est pas attendre passivement que les choses se fassent, et la citoyenneté et la vie démocratique et l'esprit démocrate c'est un esprit qui est en lutte permanente pour comprendre, pour apprendre, pour comprendre l'autre. Rien n'est acquis, tout est à construire sans cesse. Vous voyez bien, nous avons des idéaux qui sont absolument magnifiques sur le papier, nous y croyons profondément, mais je crois que nous y croyons même très très profondément depuis notre enfance. Des personnes sont même venues s'installer en France en partageant cet idéal-là, attirées par ces idéaux de liberté, d'égalité. Et donc tous ces idéaux-là, lorsqu'on les voit fragilisés, remis en cause, eh bien, il faut nous interroger, nous questionner, retourner voir notre histoire, la sociologie, la psychologie, toutes les disciplines qui nous permettent de comprendre. Et je crois qu'en faisant cela, déjà, on lève un obstacle très important, on lève sans doute la chose la plus terrible pour un individu et pour une société dans son ensemble, c'est la peur. Il n'y a rien de pire que cette ignorance qui nourrit des peurs irrationnelles, qui pose des problèmes en des termes qui n'ont pas lieu d'être, qui crée de faux problèmes et se laisse piéger par le langage. Alors je crois qu'en effet, retrouver le goût de la connaissance, pour le coup pas du tout concrète mais théorique, est sans doute ce qui peut d'un point de vue très concret nous aider à mieux vivre et à nous libérer de cette peur nourrie trop souvent par l'ignorance.
Bah, malheureusement, ça va être le temps de conclure. Merci beaucoup Oussama pour ton temps et tes éclairages, c'est un sujet qui est vaste et vraiment passionnant. Et on espère que ceux qui nous écoutent auront été autant intéressés que nous. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Pépites.